Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Tap 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 qui est là, émission hors série.
Et 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Tap tap tap, ta la la 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 tap tap tap.
Tap, tap, tap,
si je veux.
Qui là?
Pour commencer, un peu de contexte. Tout au long de l'année, de nombreuses classes de la métropole grenobloise et d'ailleurs ont lu les 7 pièces de la sélection de théâtre à la page sur le thème du rapport au handicap. Parmi ces pièces, chaque élève devait voter pour un coup de cœur. Les élèves ont voté et le coup de cœur 2023-2024 de théâtre à la page est...
Donc vous avez le premier indice, hip hip hip, hourra, et le deuxième indice, ça. Et à votre avis, roulement de tambour. Bon, ben, écoutez, j'imagine les maîtresses et les...
Ils sont habitués avec...
Donc, vous avez compris qui est-ce qui a eu le coup de cœur?
Philippe.
Voilà.
Et oui, vous l'aurez compris, c'est Champ de Mine de Philippe Gauthier qui a remporté le coup de cœur de page de théâtre cette année. Et ça tombe bien parce que le 7 juin dernier, il est allé rencontrer des classes de deux écoles ayant participé à page de théâtre, et les élèves ont pu lui poser quelques questions. Je vous propose donc d'écouter ces échanges. Pour des raisons techniques et que vous puissiez bien les entendre, j'ai dû réenregistrer les questions des enfants, mais elles sont bien authentiques. Ces questions seront ponctuées d'une petite surprise que nous avaient préparée les élèves de Mélan. Écoutez bien.
Tout de suite, les questions, les réponses.
Donc, bah, si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, je t'écoute.
Est-ce que tu aimes le foot?
Alors, est-ce que j'aime le foot? Alors, j'aime le foot, mais vraiment le sport, le côté universel du foot. Il y a quelque chose qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est qu'un jour, j'étais à Madagascar. J'étais là-bas pour travailler. Vous voyez où c'est, Madagascar, sud de l'Afrique. C'est un pays très, 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 très pauvre. Et j'étais dans la capitale, Tana, et tous les matins, je passais devant des enfants qui dormaient dehors et qui, quasiment toute la journée, jouaient au foot, mais avec une boule de scotch. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce que j'aimais dans le foot, c'est qu'en fait, avec juste une boîte de conserve, avec quoi que ce soit, on tape dedans et puis on peut s'amuser. Voilà. Après, le côté compétition, j'aime pas du tout. Le côté bling-bling et puis le côté défense de son clocher, les supporters, tout ça, ça m'insupporte, vraiment. Mais le foot par lui-même, je trouve ça intéressant. Oui, on va faire le tour.
Pourquoi le Père Noël n'a pas donné les cadeaux?
Pourquoi le Père Noël n'a pas donné les cadeaux? Parce que les cadeaux ont explosé. Donc, en fait, il n'y avait plus de cadeaux. En fait, il est arrivé juste quand il a explosé sur la mine. C'était juste avant d'arriver à l'orphelinat, donc il n'a pas eu le temps de déposer les cadeaux. Donc c'est pour ça. Mais il y en a quand même qui sont allés récupérer. Pas de bol, il a trouvé son sourcil quand même. C'est bien. Oui, au fond.
Ça fait combien de temps que vous faites du théâtre?
En tant qu'auteur, ça fait 20 ans maintenant, bientôt. Ça fait plus de 15 ans que je suis publié. Après, j'ai commencé le théâtre en tant que comédien amateur il y a 25 ans, 26 ans, à peu près. Donc ça commence à faire un certain temps que je suis dans ce milieu-là. J'ai une formation de comédien, puis j'ai travaillé dans un théâtre, un grand théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre National de Chaillot, pendant plus de 10 ans. Donc je suis dans ce milieu-là depuis 25 ans à peu près. Bon, ça a daté. Je t'écoute.
Utilises-tu des gros mots dans la vie de tous les jours? Et pourquoi utilises-tu des gros mots?
Alors, j'utilise des gros mots. J'essaye, je lutte pour ne pas en utiliser ou pour utiliser des gros mots un peu surannés. J'adore les vieux gros mots. Je sais pas, je vous conseille La Ronde des Jurons de Georges Brassens. J'adore cette chanson. Il y a plein de gros mots très, très très beau.
Je trouve corne gidouille.
Ouais, corne gidouille. Diante, fichtre. J'en utilise quand je suis au volant, comme tout le monde. Je peste sur les gens, je ne sais pas pourquoi, et on a ce réflexe-là. On jure comme des charretiers. Mais après, j'essaye de pas, j'essaye de lutter contre ça.
Et après, pourquoi il y a des gros mots dans la pièce de théâtre ?
Parce que mes personnages parlent comme ça, et je ne voulais pas leur interdire d'utiliser ce vocabulaire-là. Pour moi c'était... c'est leur manière de parler, parce qu'ils existent vraiment. Pour moi, les personnages existent vraiment, ils sont dans ma tête, ils existent, et ils ont leur propre manière de parler, leur argot. Parfois, ils sont vulgaires, parfois, ils parlent très, très bien. Ils ont parfois des tics de langage. Ça leur appartient. Et je veux pas les changer en me disant que, bah non, c'est pas bien de mettre des gros mots, ils ont le droit de le dire, voilà. Oui.
Où est-ce que tu as trouvé l'imagination pour écrire cette pièce ?
C'est difficile de définir parce qu'elle est venue d'un coup. C'est le deuxième texte que j'écrivais. Tout est arrivé d'un coup. Et après avoir réfléchi, je pense que ça vient de quand j'étais adolescent. Je me baladais, j'habitais à Lyon, à côté de Lyon. Et place Bellecour, je ne sais pas si vous voyez où c'est à Lyon. Il y avait l'ONG Handicap International qui organisait chaque année, je ne sais pas s'ils le font encore, un événement qui s'appelle la pyramide de chaussures. C'est tous les gens qui veulent viennent et jettent une chaussure seulement et ça fait au bout d'un moment une pyramide. C'était pour dénoncer le problème des mines antipersonnelles. Et j'avais vu ça, adolescent. Et ça m'avait marqué, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête en me renseignant quand même, en regardant, en lisant déjà les panneaux qui étaient mis, en lisant des articles de temps en temps. Il n'y avait pas encore Internet. Et voilà, c'est quelque chose qui m'interpellait tellement que j'avais gardé ça pendant des années. Et un jour, il y a eu un déclic quand j'ai vu des enfants jouer au foot devant moi, des enfants que je connaissais. Et là, d'un coup, tout s'est mélangé. Ces enfants victimes de mines antipersonnelles dans des pays très éloignés et les enfants que je connaissais. Et là, d'un coup, l'histoire est arrivée, mais elle s'est imposée à moi comme si elle était là depuis des années. Donc, je ne sais pas vraiment. Je pense que ça vient de cette histoire de pyramide de chaussures. Peut-être d'autres choses. J'ai du mal à définir. Oui.
Pourquoi tu as commencé le théâtre ?
Pourquoi j'ai commencé le théâtre ? Parce que je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui était passionnée de théâtre, qui était comédienne dans une compagnie de théâtre amateur. Elle m'a fait découvrir le théâtre en tant que spectateur. Moi, je pensais détester le théâtre et en fait, la première pièce que j'ai vue, que j'ai aimée, c'est l'inspecteur général mis en scène par Langhoff avec Martial Difonzobo. Je me rappelle de la scénographie, je me rappelle de tout. Tellement ça m'a marqué et je suis sorti, c'était à Chambéry, je me suis dit en fait c'est génial le théâtre. Donc je suis devenu spectateur assidu du théâtre de Chambéry, j'ai pris mon abonnement là-bas, j'habitais là-bas. Et parallèlement à ça, cette jeune fille était dans une compagnie qui était dirigée par un monsieur qui un jour m'a dit « Philippe, est-ce que tu veux venir faire du théâtre avec nous ?» J'ai voulu dire non, mais j'ai dit oui. Et vu que je m'étais engagé, voilà. Et en fait, ce monsieur, ça s'appelle Fabrice Melchiot. Et Fabrice Melchiot, c'est un très, très, très grand auteur de théâtre. Très, très bon metteur en scène. C'était un très, très bon comédien aussi à l'époque. Et donc, j'ai été initié au théâtre par Fabrice Melchiot. Donc, j'ai eu énormément de chance. Et j'ai passé beaucoup de temps après avec lui à Paris. Enfin, pas mal de temps avec lui à Paris. Et on discutait, il me parlait des textes qu'il écrivait, et du coup, ça m'a donné envie d'écrire, et je me suis mis à écrire. Mais j'étais pas, voilà, c'était pas prévu que je fasse du théâtre. Mais genre, pas du tout. Oui ?
Pourquoi c'était pas du basket à la place du foot ?
Parce que ce que je disais, c'est le côté universel du foot, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autre chose que d'une boule de papier. Le basket, il faut un panier. Le rugby, s'il y a un ballon ovale, voilà. Le handball, il faut que le ballon puisse rebondir, le basket aussi. Alors que le foot, on tape, ça roule plus ou moins et on arrive à faire quelque chose. C'est ça. Après, dans ce que j'aime des sports, je préfère le basket au foot, par exemple. Je trouve ça... Enfin, là, moi, je suis la génération Michael Jordan, donc forcément, j'ai été bercé par le basket américain. Mais après, vraiment, le côté universel, on le retrouve que dans le foot, dans les sports collectifs. On a beau chercher, on a beau me dire que le rugby, parce que là j'habite une région plutôt tournée vers l'Ovalie, et on ne peut pas jouer au rugby comme on joue au foot, c'est-à-dire n'importe où, sur un parking, sur un bout de... Voilà, rugby, on ne peut pas, le basket aussi, c'est compliqué. Un ballon en scotch, tu ne le feras pas rebondir, quoi, c'est un peu... Enfin, essayer, mais... Oui.
Dans la pièce, pourquoi la Mère Noël adopte pas de bol ?
Parce que c'était, moi, j'avais envie que ça se finisse d'une belle manière. Et puis parce que c'est un peu la magie de Noël. C'est normalement un garçon comme ça, polyhandicapé, qui manque deux membres et qui a vraiment pas de chance. Généralement, il reste à l'orphelinat parce que personne ne veut adopter un enfant comme ça. C'est trop compliqué. Enfin, généralement, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, bah, c'est la magie de Noël. C'est qu'à un moment, la magie de Noël fait que bah, celui qui a le moins de chance, finalement, à la fin, il a le plus de chance. Peut-être, après, on ne sait pas. Hein. Il va quand même se retrouver au pôle Nord, avoir froid toute l'année. Je sais pas si c'est bien. Après, il faut aussi croire au Père Noël pour que cette fin marche.
Ah,
oui.
Combien de temps tu as mis à écrire la pièce de théâtre Chant de Mine ?
J'ai mis une semaine. J'étais un peu long, je reconnais. Il y en a pour lesquels j'ai mis moins de temps. J'ai mis une semaine parce que tout était là, en fait. Tout était là. Donc, après, c'était assez intense. Mais parce que honnêtement, je ne sais pas tout. Quand j'écris, c'est que la pièce est déjà structurée dans ma tête. Je ne fais pas de brouillon. La plupart du temps, le brouillon, il se fait dans ma tête sans que j'en ai conscience. J'ai cette possibilité de faire. Non, je me trompe. Capacité de fonctionner comme ça, et je m'en sers. Donc. Donc ce texte-là, je l'ai écrit en une semaine, pardon. Il y a un texte, ça dépend lesquels, mais il y en a que j'ai écrit en 3-4 jours, d'autres en une matinée, en fonction de la taille des textes. Parfois c'est un peu plus long, mais généralement, voilà, c'est autour d'une semaine pour écrire un texte. Oui ?
Pourquoi il n'y a pas de majuscule dans le titre ?
Pourquoi il n'y a pas de majuscule dans le titre ? Bah si, à chant. Alors, je sais même pas. Bonne question. Oui, parce que je sais pas. Moi, j'ai envoyé comme ça, j'ai même pas réfléchi, c'est vrai, aux majuscules. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est une bonne question. Je vais demander parce que, alors, pour le coup, la couverture, tout ça, c'est pas moi qui gère, en fait, c'est la maison d'édition. Le maquettiste de la maison d'édition. Il a d'ailleurs fait une erreur sur A trop presser les nuages, il manque les trois points de suspension. Et après, il n'y a pas de nom propre, ce sont que des noms communs. Donc,
C'est quand que tu feras un 11e livre ?
Alors, être publié, ce n'est pas moi qui décide, en fait. C'est les éditeurs, les éditrices. Moi, j'envoie des textes. Là, j'en ai 10 qui sont publiés. J'en ai envoyé plus que ça. Il y en a qui ont été refusés. Il y en a que je n'ai pas envoyé. Après, j'ai écrit une cinquantaine de textes, je pense, au moins. Donc voilà, la publication, c'est pas de mon ressort. Là, j'ai un texte que je vais envoyer à ma maison d'édition, je pense d'ici peu, la semaine prochaine normalement, et aux autres maisons d'édition. Et après, peut-être qu'elle sera publiée, peut-être pas. C'est assez frustrant parce qu'on ne peut pas décider de si on est publié ou non. Après, moi, j'ai de la chance, j'en ai quand même déjà 10 de publiés, donc ça va. Je vais pas me plaindre non plus.
Vous devez être fier d'avoir votre nom sur un livre que beaucoup de personnes lisent.
Ben, c'est très étrange parce que moi, j'étais vraiment pas préparé. Je pensais pas que mon premier texte allait être publié. Il a été publié. Il a eu un bon accueil, donc c'était super. Et il s'est passé quelque chose pour Chant de Mine par rapport à la fierté de voir son nom. C'est qu'un jour, je vais à la FNAC, pour citer, voilà, à Paris, donc un bâtiment énorme, à Gramme, enfin. Et par curiosité, je me dis, tiens, je vais aller voir s'il y a du théâtre de l'École des loisirs. Et je trouve le théâtre École des loisirs, il n'y avait pas mes textes. Je me dis, bon, bah, tant pis. Et là, du coup, c'est parce que c'était tout en bas. J'étais accroupi, parce que le théâtre est un peu caché. Et là, je me lève, et je m'en vais, et je me retourne, et en fait, en tête de gondole, comme on appelle, c'est-à-dire mis en avant, il y avait Chant de Mine. Et j'étais hyper fier et j'avais envie de dire à tout le monde, hey, c'est mon texte. Mais les gens s'en moquaient, ils n'étaient pas là pour ça. Mais il y avait quelque chose de. Je me dis, c'est incroyable. Alors maintenant, j'ai l'habitude parce qu'au bout de 10, forcément. Mais il y a toujours ce petit plaisir. Mais au début, il y avait quelque chose. Pour moi, c'était juste. C'est monumental. Enfin, et puis de savoir que ces textes sont lus. Là, ils ont été lus par 400 élèves. 300-400 élèves. Il y a une année, j'ai été auteur TA. TA, c'est un événement. On est auteur national. J'ai fait à peu près le compte. J'ai rencontré sur une année 12 000 élèves. Donc, qui avaient lu plusieurs de mes textes. Et donc, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont lu mes textes. C'est assez... alors, il y a de la fierté et en même temps, c'est un peu effrayant. Parce que c'est quand même énorme. Je me dis, s'ils étaient tous réunis là dans la course. Mais c'est génial. Et puis, les premières rencontres, je me dis que les premières rencontres que j'ai faites, les élèves sont maintenant adultes. Peut-être que ces personnes feront lire mon théâtre à leurs enfants. Il y a quelque chose comme ça qui est assez incroyable.
Le théâtre, ça s'écoute ?
Ce soir, c'est réveillon ! Cool !
Pour nous, ça veut dire repas amélioré.
Double ration de riz.
De la viande.
Peut-être.
Et en dessert, une sorte de gâteau.
Je dis une sorte parce qu'on ne sait pas vraiment quel goût il a.
Le gâteau.
Ni ce qu'il y a dedans.
En même temps, je crois qu'il vaut mieux pas savoir.
Sinon, personne n'en mangerait.
Mais bon, c'est un gâteau quand même.
Et puis, comme on dit, c'est l'intention qui compte.
Le truc chiant, c'est qu'après le repas, il y a la messe.
Avec le père Antoine.
Les vieux.
Du coup, on s'endort à moitié pendant la cérémonie.
Qu'est-ce que c'est long.
Qu'est-ce que c'est chiant.
Mais bon, on est obligé.
C'est la tradition.
Comme la crèche.
En voilà une belle de tradition.
La crèche.
Pas de bol en âne.
Mathieu en mouton.
Et moi en vache.
Vous allez me dire, c'est toujours mes cantons.
Ou en lindon.
Mais bon.
Pas terrible quand même.
Non.
Une fois le calvaire passé, on va tous se coucher.
Histoire d'être plus vite demain.
Histoire aussi d'être en forme pour le match.
T'es déjà déguisé pour ce soir.
Hein?
J'ai dit,
tu es déjà déguisé pour ce soir.
Ah non.
C'est le maître qui m'a mis ça sur la tête.
Comprends pas.
Ben justement,
c'est ça le problème. Ouais.
Tu comprends jamais rien.
T'as une raison pour me mettre ça sur la tronche.
Bah si.
Justement.
Ah bon,
encore une tradition quoi.
Ouais, mais rien à voir avec Noël.
Et tu crois que je pourrais garder pour ce soir
le bonnet?
Certainement.
Faudra voir avec le père Antoine.
Mais il n'y a pas de raison.
Ça ou autre chose.
De toute façon, il
verra que du feu.
Cool.
Et pour le match,
je crois pas, non.
Ah oui.
Et pourquoi?
On passe déjà pour des cons.
Alors on n'a pas besoin de ça en plus.
On s'en fout. Demain on va gagner.
Sûr. Certain même.
On va les écraser.
Les puces.
Ça
va
être une vraie
poussée.
Ouais,
et après on va s'éveiller.
Quoi?
Rien.
Laisse tomber.
Bon, j'y vais.
Vos gels de cuistot.
Je crois qu'on va le lui greffer son bonnet d'âne.
Oui.
C'est qui votre joueur de foot préféré?
Mon joueur de foot préféré? Bonne question. Je dirais Alain Giresse. Ah, comme ça, tu vas chercher. Wikipédia, Alain Giresse. Non, mais je sais pas. Après, il y en a beaucoup. Mais moi, j'aime certaines histoires du foot. J'aime les histoires comme un nom que vous allez connaître. Mais Ribéry, par exemple, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est pas de votre génération, mais pas trop loin, vos parents certainement. Ouais, bah, vous êtes trop jeune. Mais c'est un joueur qui n'était pas prédestiné à faire cette carrière et il a fait c'était un des meilleurs joueurs. Il aurait dû avoir le Ballon d'Or, mais voilà. Moi, j'aime ces histoires-là de personnes qui viennent de nulle part et qu'on va chercher dans un club de national et puis finalement qui font une belle carrière. Ça, j'aime bien. Après, je sais pas. Je regarde pas trop le foot. Oui.
As-tu déjà interprété un rôle dans une pièce de théâtre?
Alors, dans une pièce, oui, j'ai travaillé des scènes, surtout parce que j'ai fait une école d'art dramatique à Paris. Donc, j'ai interprété pas mal de personnages. Dans une de mes pièces, j'ai en lecture théâtralisée, on avait fait Boubou les quatre yeux, mais j'avais pas. En fait, j'aime pas être sur scène. C'est quelque chose, je suis pas à ma place. Je me pose trop de questions, je regarde trop les autres. Quand j'étais élève, déjà, ça me posait problème, c'est que je regardais mes camarades qui jouaient très très bien, et je me disais ah ouais c'est bien, et puis ah c'est à moi de jouer. Donc j'étais totalement décalé, c'était ridicule. Donc, j'ai arrêté. Puis il y avait le track. Oui.
Quand as-tu créé Chant de Mine?
En 2008.
Ah oui.
Ouais, l'été 2008. Août 2008, en Haute-Maurienne, à Bramant, au Vernet. Exactement l'endroit. Je me rappelle tellement. Oui.
À quel âge as-tu commencé à écrire du théâtre?
Je peux vous faire la... Ah, bien, parce que j'allais faire la réponse Philippe Dorin. À 6 ans, comme tout le monde. J'avais 25 ans, je pense, à peu près, quand j'ai commencé à poser les premiers mots d'une jeune fille à un pendu. Après, ça s'est étalé sur 3-4 ans, l'écriture, parce que j'ai arrêté. J'avais écrit, ça se passe, c'est une pièce qui se passe en 4 saisons. J'avais écrit la première saison, puis je ne trouvais pas ça très intéressant, donc j'ai laissé de côté. Puis un jour, un ami vient à la maison et on discute. Je dis, oh ouais, j'ai écrit quelque chose, et je lui fais lire. Et puis il finit, il me dit, bah, tu vas la terminer ta pièce, parce qu'elle est vachement bien. Je dis, bon, d'accord, j'ai terminé, puis voilà. Mais ça a pris un peu de temps. Oui.
Pourquoi as-tu décidé de parler du handicap ?
J'ai pas parlé du handicap, en fait, c'est ça le truc. C'est que pour moi, j'ai juste parlé d'enfants qui se trouvent être en situation de handicap, mais pour moi, en fait, même dans l'écriture, j'ai oublié presque, il n'y a pas un moment, j'oublie qu'ils sont handicapés. Et tout ça parce que j'ai grandi, j'avais un de mes meilleurs amis quand j'étais enfant, sa sœur était polyhandicapée. Sauf que j'ai grandi avec lui, enfin voilà, on s'est toujours connus. Donc pour moi, j'ai toujours connu sa petite sœur allongée, qui pouvait pas bouger. Enfin, pour moi, ça faisait partie, c'était normal, quoi. Donc je me pose pas cette question-là. Donc pour moi, c'est pas une pièce sur le handicap, c'est une pièce avec des personnages qui sont en situation de handicap, voilà. Mais c'est tout le reste qui, pour moi, est plus intéressant. C'est l'amitié fraternelle qu'il y a entre eux, c'est leur relation cruelle, parce qu'ils sont quand même cruels, avec pas de bol, hein. faut pas se leurrer. Le côté harcèlement est présent, aussi très présent dans cette pièce-là, mais du harcèlement avec beaucoup de tendresse derrière, ce qui fait qu'on n'est pas sur quelque chose de juste le méchant harceleur, les méchants harceleurs avec la gentille victime. Non, c'est quelque chose de... Voilà. Donc non, ça parle de plein de choses, et il se trouve que ces personnages sont handicapés. Après, ils en parlent, pas de bol en parle à un moment quand ils parlent du handicap, mais c'est vraiment presque anecdotique pour moi, vraiment. Oui, pardon.
Pourquoi as-tu appelé Champ de Mine ?
C'est une bonne question. Au début, le texte s'appelait pas comme ça, mais souvent les titres changent. Au début, ça s'appelait le Père Noël unijambiste, mais ça donnait trop la fin. Je me suis dit non, c'est pas possible, et j'ai réfléchi, et en relisant, il y avait toutes ces didascalies où il y avait les mines qui donnaient le la, etc., etc. Et je me suis dit, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai remplacé les chants d'oiseaux par le chant des mines, et puis du chant de mine avec le jeu de mots, parce que les chants de mine, c'est les prés où il y a des mines. Je me suis dit, bah, ça fait un beau titre, je me suis dit, bah, je vais mettre ça. Mais c'est très compliqué, moi j'ai beaucoup de mal à trouver un titre. Souvent, c'est compliqué. Oui ?
Avez-vous un handicap ?
Alors, plus ou moins, j'ai une surdité à 80% de l'oreille, j'ai une barre en fer dans le tibia, j'ai plein de trucs qui ne fonctionnent pas à gauche. Je suis comme la France, moi, la gauche ne fonctionne pas très bien. Pardon. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est assez. Mais j'ai plein de petites choses, mais je n'ai pas de handicap. Du handicap social, passé un moment où j'avais des tocs, tout ça, j'avais du mal, j'étais très angoissé avec la. Mais voilà, après il y a plein de handicaps invisibles. Souvent, quand on parle de handicap, on s'imagine fauteuil roulant, mais après il y a tous les handicaps sensoriels aussi, la personne sourde. Donc, non, j'ai la surdité pour l'instant, c'est que de ce côté, donc j'ai pas encore la possibilité d'apprendre la LSF, malheureusement. Ouais, là, c'est pas, mais vraiment, hein, de haut en bas, c'est. Oui, vas-y, Michel.
Aimez-vous la musique ?
C'est vital pour moi, la musique. Mais par contre, je ne peux pas écrire en musique. Je ne peux pas mettre de la musique pour écrire parce que ça, c'est trop important. Pour moi, la musique, ça prend tout l'espace. Et ça me gêne. J'ai essayé, ça me gêne. Parce que je me dirige. Je suis musicien aussi, je suis guitariste. Donc forcément, la musique a... pour moi, c'est l'art universel. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Là, j'ai de la chance, je travaille avec des musiciens. J'ai fait un spectacle musical avec l'Orchestre National d'Avignon. Où là, d'un coup, il y a 13 musiciens symphoniques qui jouent une mélodie composée par monsieur Camille Rocailleux, avec une chanteuse qui chante mes mots sur cette musique-là. Et c'est juste incroyable. Là, d'un coup, c'est magique. Donc, oui.
Aimez-vous le dessin ?
pareil, le dessin. Moi, je... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 16 ans, je crois que j'ai acheté une guitare par rapport à un voisin. J'ai eu de la chance, j'ai un voisin qui m'a fait découvrir la musique, le papa d'un copain. Il m'a tendu une guitare un jour et j'ai adoré ça, j'ai acheté une guitare. Donc, j'ai commencé par la musique et après, le dessin est arrivé. Quand j'ai fait une formation, j'ai eu une formation de bûcheron. Oui, ça se voit pas, je sais. Et je m'ennuyais, en fait, c'était une erreur d'orientation et je m'ennuyais, donc je me suis mis à dessiner, mais énormément. Et à tel point qu'il y a même une prof qui m'a dit, bon, on va faire un dossier pour que tu rentres dans les écoles d'art pour faire du dessin. Et j'ai voulu en faire mon métier, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc oui, je dessine. Ça, pour moi, ça fait partie d'un tout, en fait, la musique, le dessin, enfin les arts, c'est une manière égoïste de me mettre dans une bulle. Et j'en ai besoin, donc souvent je dessine, souvent je prends tous les jours, je dessine, je crois, quasiment. Tous les jours, je prends ma guitare et tous les jours, je pense à mes personnages. C'est quelque chose de nécessaire pour moi de me mettre dans ma bulle, de m'enfermer avec cet univers-là. Tout au fond, oui.
C'est qui votre personnage préféré dans la pièce ?
Dans celle-ci ? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai de la tendresse pour tous, même pour le Père Noël. Je trouve qu'avec ses défauts, il ressemble beaucoup aux personnes qu'on peut croiser ici. Non, honnêtement, je sais pas. Puis peut-être que j'ose pas le... Parce que pour moi, ils existent vraiment, donc j'ai l'impression que si je le dis, je vais vexer les autres. Donc je vais peut-être pas le dire. Ça fait assez schizophrénique de dire ça, mais ouais, je sais pas. Après, Léo, dans ses propos, parle de choses qui me touchent, enfin qui me ressemblent quand on parle de... Enfin, le monologue du début, tout le monde rêve d'être un oiseau. On a tous des rêves, mais il y a souvent quelqu'un, des personnes, pour nous empêcher ou pour nous dire que c'est compliqué, qu'il devrait faire autre chose. Et finalement, je crois que je lui ressemble un peu ou il me ressemble un peu, je ne sais pas. Oui.
Quelle est la pièce de théâtre que vous préférez ?
Dans les miennes, celle que je suis en train d'écrire. Et j'en parlerai pas, parce que là, elle est aux prémices du début. Après, dans celles qui sont publiées, honnêtement, je ne sais pas. Il y a dans l'acte d'écriture, parce que vraiment, moi, ce que j'aime, c'est écrire. Soit publier, jouer, c'est génial. Mais moi, c'est vraiment me mettre avec mes personnages, m'enfermer avec eux et vivre avec eux pendant une période. Donc, dans l'acte d'écriture, il y en a trois qui ressortent. C'est « Champ de mine »,« À trop presser les nuages » et « La petite plieuse de papier ». « Champ de mine », parce que c'était mon deuxième texte et il y a eu une évidence, comme je vous disais, en une semaine j'ai écrit le texte, tout était là. Et j'ai eu l'impression de ne pas maîtriser, comme s'il y avait une voix qui me parlait, qui me disait « faut vous mettre ça » et j'écrivais, enfin c'est très étrange. Je sais qu'il n'y avait pas de voix, hein, je suis pas fou, mais c'est un peu la sensation que j'avais. « À trop presser les nuages », c'est un texte qui m'a été inspiré par un texte de Catherine Verlaguet, « Les vilains petits ». Catherine Verlaguet qui est autrice. Se trouve être une très très bonne amie aussi. Et un jour, je lis ce texte-là, et qui est très très beau, et qui m'inspire, ce texte, à trop presser les nuages. Et je pense le soir à mes personnages arrivent, il y a deux personnages, il y a le décor. Et le lendemain matin, j'écris la pièce en une matinée. Je pique le platane de la cour de récréation de la pièce de Catherine Verlaguet. Et j'envoie le texte et un message à Catherine en lui disant « Est-ce que je peux voler ton platane ?» Elle me dit « Avec plaisir ». Et du coup, je lui vole son platane. Je trouve qu'il y a même une flaque aussi dans sa pièce. Et d'ailleurs, le personnage principal s'appelle Caddy, parce que Caddy, c'était... voilà. Et puis, il a été évident. Je l'ai envoyé l'après-midi même à ma maison d'édition. Mon éditrice a répondu tout de suite oui. Le lendemain, elle m'envoyait la quatrième de couverture. Alors, normalement, elle ne l'écrivait pas. C'était quelque chose d'assez évident. Et très drôle, c'est qu'en même temps que j'écrivais ce texte, il y a une autrice qui s'appelle Karine Serre qui a écrit, mais vraiment en même temps, sur la même période, « Le monde sous les flaques ». Et en fait, c'est deux textes qui se répondent, on parle de la même chose. Et on peut vraiment, je pense qu'un jour, il faudra qu'on le fasse, quoi, qu'on les mélange pour en faire un spectacle. C'est assez incroyable, je ne sais pas d'où ça vient. Et « La petite plieuse de papier », c'est le dernier texte publié. J'ai de la tendresse parce que c'est le dernier texte qu'aura publié mon éditrice qui nous a quittés il y a un an et demi. Donc rien que pour ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et dans l'écriture, c'était comme un baume. C'est comme quelque chose d'apaisant pour moi parce qu'on sortait d'une période compliquée qu'on a tous vécue. Le confinement, les divisions qu'il y a pu y avoir entre amis, dans les familles, tout ça, dans cette période qui était très très dure à vivre. Et j'avais besoin de quelque chose de doux, d'un flocon de neige, quoi, quelque chose de beau. Voilà, donc... Je suis très content de, parce que ce texte a un très bon accueil aussi. Et, voilà. Et dans l'écriture, ça m'a fait du bien. Oui.
Vu qu'on a bien aimé Chant de Mine, quelle pièce vous nous conseillez à lire?
Des miennes? Des miennes, quelques minutes de silence, mais toutes en fait, toutes, allez-y, parce que c'est un peu tout le même univers. Après, après Costa le Rouge, après de Sylvain Levet, après Les Vilains Petits de Catherine Verlaguer, après Moustique de Fabien Arca, Hématome de Stéphane Biens, je peux vous en citer plein parce qu'on se connaît et j'aime beaucoup le travail. En fait, il y a des liens qui se créent dans les écritures et dans les amitiés avec certains auteurs, enfin, Dominique Richard et... Enfin, toute sa série, moi c'est les discours de Rosemary où j'adore. Enfin, j'ai lu ce texte, je riais dans le train en le lisant juste avant de faire une rencontre avec Dominique. C'est, voilà. On a de la chance, c'est que nous en tant qu'auteurs autrices, on est publiés et vous avez de la chance, c'est que vous avez un panel d'auteurs et d'autrices. Et là, je parle de mais entre Philippe Dorin, Nathalie Papin, jusqu'à une génération. Antonio Carmona, Sophie Merceron, qui bah, commence à en avoir beaucoup, là, déjà.
Ils ont lu les Piaf.
Ouais. Et moi, j'avais lu Avril. J'avais fait une rencontre avec elle. C'est très, très intéressant. Oui. Enfin, voilà, il y a plein de textes, donc je ne saurais pas lesquels vous conseiller, parce que... Mais piochez, allez. Et puis, lisez entre vous, c'est... Vous allez voir, c'est drôle. Je t'écoute.
Est-ce que c'est fait exprès que les garçons ne pleurent jamais, sauf Pas de bol, page 57?
Les garçons ne pleurent jamais?
Dans la pièce.
Oui, oui. Non, c'est pas fait exprès. Enfin, j'ai pas calculé. C'est bien d'avoir, j'avais jamais remarqué. C'est bien, on pose des questions qu'on m'a jamais posées. En 15 ans, c'est quand même pas mal. Non, c'était pas calculé. C'était pas fait exprès, mais certainement dans mon inconscient, oui, il y avait... cet ordre-là. Après, je sais, pour avoir travaillé avec des enfants, pas victimes de mine, mais victimes de harcèlement, voire de choses beaucoup plus graves dans leur famille, il y a quelque chose dont ils lâchent rarement les larmes. Ils retiennent beaucoup. Peut-être qu'inconsciemment, c'est ça. Peut-être qu'il n'y a pas eu de situation où ils devaient pleurer. Et après, quand on a perdu une jambe, je pense qu'on relativise quand même pas mal sur pas mal de choses. Okay. Ou pas, je sais pas.
Ils disent pas quand ils ont perdu leur jambe qu'ils ont été tristes ou quoi. Ils les disent pas vraiment.
Ils disent même que c'est quelque chose de normal, mais après, c'est une posture aussi, peut-être. Mais c'est une bonne question. Je vais y réfléchir. Et je t'enverrai par courrier recommandé une réponse. Non, mais c'est...
Par Sandra.
C'est...
Par Sandra et Marie. Mm-hmm. Tu peux nous renvoyer.
Oui. Mais oui, oui, je sais. Mais après... Mais encore une fois, ce texte, j'ai tellement pas contrôlé qu'il y a plein de choses, je sais pas. C'est comme les gros mots, j'ai pas fait attention. Il y avait des gros mots, quoi, ils parlaient comme ça. Oui.
Je suppose que vous avez vu des matchs de foot dans votre vie quand même.
Oui, quelques-uns, oui.
C'est lequel qui vous a le plus marqué?
Le match qui m'a le plus marqué, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont marqué, je sais pas. Je sais pas, peut-être un. Non, même pas la 98, j'avais même pas vu la finale. J'étais à la montagne, j'ai d'autres choses à faire. Non, je ne sais pas, il y a des moments qui m'ont marqué, peut-être des images, mais plus des choses, des ambiances dans les années 80, la Coupe d'Europe en 84. Je parle de Platini, Giresse, Tigana, etc., Rocheteau, ça ne vous parlera pas du tout. Mais en fait, c'est pas le match par lui-même, parce que je ne voyais pas les matchs, j'étais petit. Hein. Mais c'était juste, je me rappelle, on dormait j'étais dans ma chambre, il y avait la fenêtre ouverte parce qu'il faisait chaud, et à un moment la France a marqué, et j'ai entendu, j'habitais un lotissement, donc il y avait plein de maisons comme ça, et j'ai entendu un cri de tout le lotissement, et là il y a eu quelque chose, je me suis dit c'est incroyable, c'est à l'unisson, alors qu'ils sont à l'autre bout de l'Europe, ils sont loin, à l'unisson là, d'un coup tous les gens qui s'entendent pas forcément étaient joyeux en même temps, c'était très étrange, mais un cri ouais. C'était un peu terrifiant. Et c'est plus ça qui m'a marqué que match par lui-même. Je sais pas. Après, j'en ai vu. Je n'ai pas vu tant que ça. Oui.
Pourquoi dans la pièce de théâtre Chant de Mine utilises-tu l'humour noir?
Ah mince. Bah vas-y, pose-la. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fonctionnait. Moi, où j'ai grandi avec plein de copains. En fait, on était toute une génération du même âge. Donc enfant, on jouait au foot dehors. Et puis après, adolescent, On se voyait quasiment tous les jours, même si on n'était pas dans les mêmes collèges, on se voyait tous les jours. Et plus tard, on se voyait tous les soirs. Quand j'ai eu 16, 17 ans, tous les soirs, à la même heure, on se retrouvait. Et on pratiquait ça, l'humour noir. C'était quelque chose, c'était, je ne sais pas, un exutoire. C'était quelque chose qui nous amusait. On a toujours fonctionné comme ça. Et c'était même parfois des concours à celui qui allait le plus loin jusqu'à choquer, à nous choquer. Et pourtant, il fallait y aller. Et j'ai un ami, Ludo, et il arrivait parfois, il sortait des trucs, on disait « Ah là, t'as gagné enfin, !» C'est bravo. Et toujours fonctionné comme ça, donc automatiquement. Mais pour moi, c'est une manière, je trouve ça intéressant de cette pratique-là aussi. Avec le recul, je me dis que pour interpeller les gens, parfois, c'est pas mal. Parce qu'on rit de quelque chose, mais avec le recul, on se dit « Ah, j'aurais peut-être pas dû rire. » Donc ça permet aussi peut-être de réfléchir. D'aborder les choses différemment. Oui.
Est-ce que vous avez fait du sport ?
Oui, quand j'étais jeune, j'ai fait plein de sports différents. J'ai fait de l'escalade, j'ai fait du judo, de l'aïkido, du ping-pong, du foot, mais pas en club. J'ai fait pas mal de... Avant, je faisais du sport. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Et le sport, j'avais repris, alors, juste pour raconter la petite anecdote par rapport à Champ de Mine. Ah, pas de bol. J'avais repris le sport, le foot en salle il y a quelques années. Et je me rappelle un jour, je prends un texte qui s'appelle Le bruit des eaux qui craquent. C'est une pièce de théâtre qu'il faut que je lise maintenant, mais voilà. Et le soir même, en jouant au foot, j'ai posé mon pied par terre et mes os tibia péroné ont explosé, juste en posant le pied par terre. Donc grosse fracture, gros truc comme ça. Et c'était juste avant Noël. Et je me rappelle, j'étais alité avec ma jambe comme ça, et ma compagne est venue poser un petit sapin en carton. Donc humour noir, je crois que connaît aussi. C'était très drôle. Je lui dis non, là, c'est peut-être pas. Mais voilà, donc je fais plus trop de sport. Enfin, je fais beaucoup de marches à pied, et j'habite dans un endroit où je peux faire beaucoup de marches à pied, où je vais nager dans les rivières aussi. Voilà, mais je fais pas de sport pour proprement parler. Oui.
D'après toi, quel pays serait celui où il y a des champs de mines ?
Alors, moi, j'ai écrit par rapport à un pays précis que je n'ai pas cité volontairement. Je peux vous le donner, c'est le Cambodge. J'ai écrit ce texte par rapport au Cambodge. Le Cambodge, c'est en Asie, c'est vers le Vietnam, le Laos, anciennement le Siam. On ne parlera pas, mais... c'était le pays où il y avait le plus de mines antipersonnelles par habitant. C'est là-bas où c'était enfin, vraiment catastrophique. Après, il y a encore des pays, je sais qu'au Liban, il y a encore des endroits où il y a des mines. Normalement, il est censé ne plus y en avoir parce que ça a été interdit par les conventions de Genève notamment, mais réautorisé par Trump il y a quelques années. Donc, mais il y a plein de pays en fait il y a plein d'armées qui s'en servent encore sans trop en parler.
Le théâtre, ça s'écoute ?
Allez, t'es le meilleur !
Le meilleur des meilleurs !
Tu vas assurer !
C'est ton soir !
Un an que tu prépares !
T'es au top !
Plus que 3 minutes et c'est parti !
Tout est prêt !
Tout est ok !
Le grand soir !
Bip 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 !
Quoi ?
Quoi ?
2 minutes.
Ah, c'est bon.
C'est bon ? Bon, cette fois, ça y est.
Départ dans 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7.
J'arrive pas à dormir.
Certainement la patience.
Ou le stress du match.
C'est pas. Ce que je sais, c'est que j'arrive pas à dormir.
En plus, pas de bol ronfle.
À cause de son étendue. Heureusement, demain, il en aura un neuf.
Non, parce que là, c'est plus possible.
Le Père Noël ne devrait pas tarder.
Je vais me cacher quand les gardiens arriveront.
Sinon, ils peuvent m'engueuler si on me voit.
Et puis, c'est la tradition.
On ne doit pas le voir, c'est tout. C'est comme ça.
Alors
je me mettrai sur la table.
Juste là. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble.
Le Père Noël.
Sûr qu'il n'est pas si vieux qu'on le dit.
Comme ça, bon.
C'est une légende. Moi, je le vois plus de jeune.
Grand, sportif,
habillé cool.
Avec une cape, peut-être.
Un peu comme Superman, mais on est habillé.
C'est-à-dire pas avec un collant et un slip par-dessus.
Parce que ça craint. Qu'est-ce qu'il fout, ce con ?
J'espère qu'il s'est pas perdu au moins.
Je devrais peut-être allumer à l'extérieur.
Histoire qui trouve plus facilement. Pas une étoile dans le ciel, ni la lune d'ailleurs. C'est le noir complet. Sûr qu'il va se paumer quelconque.
Il aurait dû se commander un GPS.
Il est passé?
Toujours pas.
Qu'est-ce qu'il fout ce con?
Il s'est perdu sûrement.
Qu'est-ce que tu fais là?
Je suis venue voir si le nouveau net pas de bol était arrivé, histoire de pouvoir dormir un peu, parce qu'avec le match, faut être en forme.
Sûr.
Et toi, qu'est-ce que tu fais?
J'attends.
Quoi?
Bah, le Père Noël,
du coup. Logique.
T'attends avec moi?
Non,
je retourne me coucher.
Tu viens me chercher quand il sera passé?
Pour le nez.
Sinon, je crois que je vais lui redresser moi-même.
Je crois que je vais aller me pioter aussi.
Je vais essayer de dormir un peu.
Puis, c'est le coup qui arrive à 5h du mat.
T'es chier quand même.
Merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver la pièce « Champ de mine » de Philippe Gauthier ainsi que le reste de son écriture théâtrale dans toutes les bonnes librairies et bibliothèques. Et en attendant, je vous invite à aller écouter l'entretien réalisé avec Marie Bernanos dans lequel Philippe Gauthier répond à nos questions sur son rapport à l'écriture, l'adresse à la jeunesse et le rapport au handicap dans sa pièce. Merci à tous les élèves et aux enseignants et enseignantes qui ont participé à Page de Théâtre cette année. On espère vous retrouver l'année prochaine. Si vous voulez réagir, poser une question ou même nous rejoindre, n'hésitez pas à nous écrire à théâtrealapage@gmail.com ou à nous contacter sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Je vous dis à très bientôt, c'était Élise Roger pour Théâtre à la Page.
1, 2, 3, 4,
Qui est là?
C'était Théâtre à la Page.